Et on continue d'écouter Radio Esperanza. Et qui on a en face de nous? Bah, on vous les a déjà annoncés, c'est Jessie et Aurelio, qu'on a été débauchés sur leur stand, le stand des chefs. Bah, qu'est-ce que vous faites ici à Esperanza, Jessie?
Eh ben, nous, on participe au Village des Possibles. On est là, comme vous, tous les jours du festival, donc encore aujourd'hui jusque dimanche. Et en fait, on a un stand de sensibilisation aux thématiques LGBTQIA+, avec des jeux qui sont disponibles. On a plusieurs jeux. On a le jeu des drapeaux qui permet d'identifier les drapeaux relatifs à certaines communautés lesbiennes, transgenres. Voilà, si vous poser des questions sur ces thématiques, n'hésitez pas à passer au stand. On a aussi un jeu qui est un peu plus historique, question historique, et qui retrace un peu l'histoire de la communauté LGBT.
Sur les drapeaux, je peux te couper?
Oui.
C'est important d'apprendre ces drapeaux-là, ou enfin, tu vois, tu le proposes comme un jeu, mais il y a un enjeu en plus que le jeu.
Bah, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir visibiliser toutes les catégories qui sont présentes dans les acronymes LGBTQIA+, parce qu'il n'y a pas effectivement la volonté de pouvoir visibiliser les drapeaux, pardon.
Oui.
C'est de pouvoir, justement, on connaît beaucoup le drapeau arc-en-ciel qui a beaucoup été synonyme de la communauté gay, mais du coup, pour essayer de combattre ça, il faut justement visibiliser les différents drapeaux, notamment le drapeau transgenre. Peut-être qu'Aurélio peut en parler aussi un petit peu.
Le drapeau transgenre, que dire dessus, c'est vraiment un drapeau qui englobe toutes les parties, on va dire, de la communauté transgenre. Donc ça va être tant les hommes transgenres que les femmes transgenres. Mais aussi certaines personnes non binaires se retrouvent dans ce drapeau-là parce qu'il y a les deux couleurs et il y a la partie aussi, tout ce qui est binaire, donc le blanc dans le drapeau transgenre.
Oui, et alors au niveau de rendre ce drapeau aussi visible, de pouvoir l'identifier, le faire identifier par les festivals, important?
Je dirais que oui, parce que le drapeau et la communauté transgenre n'est pas connue au grand public. Il y a beaucoup encore de personnes qui nous voient comme une personne qui ne rentre pas dans la communauté cisgenre, et qu'il y a beaucoup de personnes transgenres qui ont un passing assez visible pour rentrer dans ce qui est tout ce qui est stigmatisé cisgenre. Après, être présent au festival Esperanza avec notre drapeau signifie aussi de montrer qu'on est une communauté qui se soutient, parce qu'il y a quand même une certaine communauté dans les festivaliers et festivalières d'Esperanza qui font partie de la communauté.
Oui, ok. Et alors, qui compose les chefs?
Donc les chefs, c'est une association de jeunes de 18 à 30 ans et de permanentes, on va dire entre 25 et 40 ans, qui font un boulot formidable à Namur dans nos bureaux. Donc les chefs, c'est 6 pôles en Wallonie et à Bruxelles, où ces pôles font tout ce qui est sensibilisation, débat, ciné, activités festives, etc. Pour leurs membres. Par exemple, nous deux, on vient de Bruxelles. Et donc, par exemple, durant l'année, on va avoir plusieurs groupes d'entraide. Donc, ça va être tout ce qui est accueil d'une personne qui va être en questionnement sur son genre ou sur sa sexualité. On va l'encadrer, on va l'aider à faire son coming out à ses proches, comment venir avec ce coming out à la famille, quelles réactions on pourrait avoir de la famille si la famille est homophobe, transphobe, etc.
Oui.
Et on est là pour répondre à leurs questions.
Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que c'est pas mal de bénévoles, donc d'étudiants qui sont souvent des étudiants, parce qu'on est implanté dans des villes où il y a des universités, mais comme Aurelio vient de le dire, on a destination des personnes entre 18 et 30, et c'est des personnes du coup qui s'investissent bénévolement dans le projet de fournir un espace d'accueil pour les personnes LGBTQIA+. Et à côté de ça, on a aussi des permanents qui organisent aussi des formations à destination des professionnels de l'accompagnement de jeunesse, donc que ce soit pour des animateurs scouts, que pour des centres de planning familiaux. Et donc on a aussi des formations qu'on appelle genre et jeunesse,
oui.
Voilà, Donc on a aussi ce
ça, c'est les chefs qui donnent ces formations-là. C'est ça, c'est les chefs, êtes une fédération, ouais, hein, on l'a dit au début. Ça. Peut-être vous pouvez traduire l'acronyme.
Donc les chefs, c'est cercle LGBT. Qui, bon, normalement, c'est homosexuel, en fait, mais on n'utilise plus ce terme-là. Donc c'est cercle LGBTQAP+, estudiantin, fédéré francophone.
Ouais, ça devient difficile de faire un acronyme avec tout ça, presque un peu illisible.
Mais c'est dans nos projets de bientôt. On espère... on va dire en janvier, on espère avoir changé de nom parce que le mot homosexuel, on ne le veut plus dans notre nom et on essaye de trouver un maximum, un nom qui
soit inclusif,
qui soit inclusif dans la communauté. Ouais, ouais.
Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Et rebonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici. C'est Lucky Oscar avec Quentin. On a toujours Guillaume qui est dans les parages. On a toujours le plaisir d'être avec les membres du chef. Mais on a d'autres personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. On a Bertrand et Chloé de Poitinger. Bonjour.
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 Ça va. On a aussi Paolo du CNCDE.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien?
Oui, super.
Très bien aussi.
Et voilà, on a Eclosio qui va aussi nous rejoindre dans un instant. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein, on court toujours un peu à gauche à droite. Quentin, ça va, poser?
Tout va bien, tout va bien, merci.
C'est la joie du direct. Et du coup, aujourd'hui, ouais, on est plein, on est
un petit peu
blindé,
hein,
blindé. Ben oui, du coup, on va pouvoir faire un peu les présentations des différentes assos. Donc, on peut commencer par le potager, par exemple.
Oui. Du coup, le potager, c'est un potager communautaire à l'Université de Liège, donc qui a été créé par un ensemble de doctorants et qui vise à un peu proposer des alternatives à ce qui est proposé dans les cursus traditionnels de cours, mais lier ça à l'alimentation, la production alimentaire, le développement durable et plus l'aspect aussi biodiversité qu'on essaye de mettre en avant.
Ok, super. CNCDE, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
C'est surtout connu pour son action 11-11-11, mais ça ne fait pas que ça. Donc c'est une coupole d'ONG sur tout ce qui est la justice sociale, les inégalités nord-sud, etc. Donc ils font et de la récolte de fonds, et aussi de la sensibilisation, et du plaidoyer politique. Donc voilà.
Ok, super. Just in time, on a Ecloso qui est là parmi nous, ça va?
Ça va, très bien.
Même plus de chaise. Attends, tu peux. Peut-être aussi la présentation du chef, des chefs, pardon, excusez-moi.
On s'est présenté avant, mais on peut le redire. On est une ASBL basée à Namur qui organise des événements à destination des personnes LGBTQIA+, entre 18 et 30 ans. Et donc, voilà, chaque semaine, on organise des activités dans 6 villes en Wallonie et à Bruxelles.
Et on fait des formations genre et jeunesse.
Voilà, on fait des formations aussi à destination des professionnels de l'accompagnement des adolescents, donc que ce soit des animateurs scouts, des professionnels qui sont en centre familiaux, des professeurs. On fait des formations du coup sur les thématiques d'identité de genre et d'orientation sexuelle.
Ok, merci beaucoup d'avoir pris la peine de vous répéter. Ouais. Excusez-moi, c'était pas Eclosio, c'était le Gus, décidément. Le vendredi après-midi, c'est compliqué. Donc le Gus, bonjour.
Bonjour. Du coup...
Vous pouvez vous présenter, oui, pardon.
Le GUS, c'est l'ONG de l'Université de Liège, qui est en fait reliée à Eclosio. Du coup, ce n'était pas totalement incorrect, finalement. Eclosio, c'est l'ONG de l'Université de Liège, et GUS, c'est en fait la cellule qui est, on va dire, dirigée par les étudiants et qui est gérée par les étudiants. Donc, c'est les projets étudiants sur les différents campus de l'Université de Liège qui, en fait, mettent des actions en place pour... différents types d'actions qui concernent en fait des sujets très vastes. Ça peut aller comme ici, sur des sujets liés à l'hétéronormativité. C'est le thème de notre stand ici à Esperanza. Mais ça concerne aussi des choses liées à l'alimentaire. On a participé par exemple à l'organisation du festival Nourrir Liège, à Liège du coup, et aussi à Jambloux. Voilà, le GUS a plein d'autres actions.
Mais Eclosio, ah non, pas Eclosio du coup, mais de par vos activités, vous nous prémâchez un peu le travail, vu qu'on essaye de créer une articulation entre les thématiques queer, LGBT, QI+, et les questions de justice environnementale. Alors, on a déjà un peu essayé de passer, de franchir un pas vers les enjeux des autres thèmes, en fait, enfin, et des autres militances avec les chefs juste avant. On a été dans le féminisme, c'était assez facile, hein, finalement, de faire les allers-retours. Mais toi, tu vas nous faciliter la tâche aussi, hein, on compte sur toi. Alors, il y a aussi Quentin et Lucky qui ont réfléchi un petit peu aussi à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, dénominateur commun, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire que ça a du sens de se retrouver autour d'une même table. Outre le fait un peu drôle d'essayer de mettre des thèmes ensemble, quoi. En fait, il y a un intérêt. Donc, je pense que là, on peut vous écouter, voir comment vous avez conçu ce rassemblement.
Tout à fait, avec grand plaisir.
Ensuite, on vous fait réagir, on vous interroge, on voit un peu ce que vous en pensez, et puis voilà, on verra où ça nous mène.
Tout à fait. Et en fait, en voyant ces deux sujets ensemble pour la journée à Esperanza, Quentin et moi, on s'est regardés, on s'est dit un petit peu à la Avengers, vous voyez, se regrouper devant un ennemi commun, qui est pour le coup assez clair. On a cette notion vraiment très forte de la lutte qu'on a tous ici contre les hétéropatriarcats, contre le capitalisme, qui est quand même sujet de violence systémique à l'égard autant des minorités autour LGBT que du chaos et de la violence autour de l'écologie. Et donc du coup il y a ce regroupement et ce combat qui semble commun, mais voilà, j'aimerais bien un peu savoir votre réflexion, chacun les uns sur les autres, parce que du coup on a ces différents pôles là, et j'aimerais bien un petit peu voir votre avis, comment est-ce que vous prenez le pas vis-à-vis de cet ennemi commun entre guillemets qu'on a un peu tous.
T'as tout dit, oui, c'est ça, on veut avoir votre vision par rapport à ce thème là, donc voilà, à vous.
On commence par la convergence des luttes.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est la convergence des luttes.
En tant que représentant du groupe Liège Solidaire, qui justement, comme tu l'as dit, est sur plusieurs fronts à la fois en quelque sorte, je pense qu'il est, important de surtout mettre en avant une sorte de nouvelle citoyenneté, on pourrait dire, entre guillemets, qui sorte, on va dire, des sentiers battus du capitalisme, du patriarcat et de tous ces autres systèmes de domination qu'on pourrait dire. Donc ça doit passer par plein de choses différentes évidemment, dont de la sensibilisation, et c'est ce qu'on fait nous. Mais c'est évidemment pas la seule chose qui doit se faire. Il faut des gens sur les terrains de lutte, il faut aussi de la création d'alternatives pour pouvoir amener un changement. Mais en tout cas, ça c'est...
Vous avez des exemples de sensibilisation et d'action en tête là tout de suite?
Des exemples de sensibilisation?
Oui, c'est ça, pour que les auditeurs aient un peu des idées de comment vous faites, vous participez à ça, quoi.
On ne doit pas censé parler de notre activité là. Du coup, ça doit être en rapport avec ce qu'on fait ici à Esperanza.
Oui, par exemple, c'est juste avoir comme un exemple de votre lutte. Ici, ce que vous faites à Esperanza, ça marche aussi. Oui.
Ok. Du coup, là, par exemple, l'atelier qu'on anime, c'est une pêche aux questions. Et en fait, sur l'hétéronormativité. Et en fait, c'est un atelier de sensibilisation pour apprendre un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique, l'hétéronormativité, dans notre société. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne savent pas ce que ça veut dire et qui n'ont pas conscience, en quelque sorte, des privilèges et des discriminations que certaines personnes peuvent avoir concernant ce sujet-là. Et donc, du coup, on a fait vraiment des questions ouvertes pour avoir un peu un débat et essayer de voir un petit peu les points importants qu'il y a, par exemple, dans le monde qui nous entoure, par exemple, à l'université et tout ça. Comment l'hétéronormativité influence notre vie quotidienne. Donc voilà, c'est des questions assez ouvertes pour avoir des débats et un peu déconstruire tous les clichés qu'il y a autour de ces questions-là. Voilà. Et ça vise à toucher un public très, très large et très diversifié et que les questions soient très inclusives pour que tout le monde puisse participer à ces débats. Voilà.
Ok, super, merci. On va passer à un autre groupe pour avoir aussi le même. On vous a déjà eu pour le potager au niveau de ce que vous faites. Et tu veux te relancer un peu ou...
Merde.
On n'a pas l'habitude.
Mais oui, voilà. Du coup, il y avait quand même dans ce que tu dis aussi, j'entends la question des publics au final. Donc on entend quand même une question d'éducation à différents publics et pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça évoque chez vous les publics auxquels vous êtes confrontés. Vous par exemple au potager, vous êtes beaucoup avec des étudiants. Est-ce que vous êtes confrontés genre à ce public-là essentiellement et comment est-ce que ça shape, comment ça met en forme votre lutte, votre activité et est-ce que vous vous retrouvez confronté parfois à des choses où vous dites ah purée tel sujet
Oui, ben nous le public, on essaye qu'il soit le plus diversifié possible, c'est-à-dire autant étudiants que doctorants que membres du personnel. On essaye vraiment d'aller toucher tous les publics possibles. Après le plus grand et le plus facile à toucher c'est étudiants, et je pense que là où c'est le plus compliqué et notre combat pourrait paraître éloigné des combats menés par la communauté LGBTQ+, mais voilà, le combat qu'on essaie de mener, au final, c'est aussi une déconstruction de ce qu'on nous apprend pendant les études. Il y a un carcan généralement amené par les études. On vise plus les étudiants ingénieurs de base parce que c'est de la faculté où on a créé le potager. Et donc on essaye un peu de déconstruire ce carcan et de montrer qu'il y a des alternatives possibles dans les cours, dans comment on peut appliquer ce qu'on a appris, et vraiment de proposer plusieurs modèles, et pour ça aussi essayer d'y appliquer les doctorants qui représentent un modèle pour les étudiants, et également les professeurs. Je pense que le public des professeurs est plus difficile à toucher, mais les doctorants en a beaucoup d'appliqués, et on essaye vraiment avec eux de créer plusieurs exemples possibles pour les étudiants de comment au final ils peuvent appliquer ce qu'ils apprennent dans la vie de tous les jours.
Et revenir, le garder, quoi, pour vous interroger tous, est-ce que c'est quelque chose qui vous rassemble vraiment, le fait de déconstruire des choses que vous avez appris, enfin des choses qui font partie de nos apprentissages traditionnels, classiques, et auxquels on est toujours soumis maintenant, quoi. Donc pas les préjugés, les stéréotypes et tout ça, hein, qui sont encore des questions très proches, mais vraiment au niveau des apprentissages officiels.
Et juste, je voudrais compléter au niveau du public cible. On fait beaucoup de stands dès qu'on peut. Par exemple, on participe au festival Nourrir Liège, à tout ce qui se passe aussi sur la fac. On organise nos journées chantiers, par exemple, sur le terrain, ouverts à tous. Et donc, ces événements nous permettent aussi de toucher un public beaucoup plus large. Par exemple, lors d'un dernier stand qu'on a fait, une dame est venue avec son adolescente qui avait peut-être 14 ans et qui nous a demandé si on accueillait les adolescents sur le terrain. Évidemment, la réponse est oui. Et donc, on a parfois même des petits... ça nous arrive, oui, d'avoir des enfants de 3-4 ans qui viennent avec leurs parents lors de ces journées un petit peu plus événementielles. Et sinon, des personnes âgées aussi, de temps en temps, qui viennent comme ça. Il arrive même que des gens passent à côté du terrain, nous demandent ce qu'on fait et viennent tout simplement travailler avec nous.
Du coup, pour revenir sur la question de la déconstruction, nous c'est effectivement quelque chose d'important parce que tout ce qui est discussion sur l'identité de genre et les orientations sexuelles, c'est assez récent pour beaucoup de parents. Il y a beaucoup de parents qui du coup ne connaissent pas. Et du coup, effectivement, c'est important du coup de quand. Enfin, nous notre public du coup c'est les jeunes entre 18 et 30 ans, mais du coup il faut qu'on puisse leur permettre de découvrir qu'il y a d'autres alternatives du coup à l'hétérosexualité, et du coup c'est pour ça qu'on est aussi beaucoup sur la déconstruction de beaucoup de choses qui ont été apprises ou mal apprises, justement des préjugés par rapport à la sexualité.
Oui, parce qu'on arrive souvent dans les milieux, que ce soit pour déconstruire ce qu'on a appris sur l'écologie ou enfin sur le monde qu'on connaît, on arrive souvent avec un héritage parental assez fort. Et donc du coup, c'est vrai que d'avoir à toucher les gens de notre génération, c'est peut-être plus facile, mais celle de la génération d'au-dessus, c'est plus compliqué. Est-ce que par exemple au CNCDE, vous y êtes confronté beaucoup ?
J'avoue que sur ce point-là, je ne sais pas exactement parce que je suis un bénévole assez récent. Mais c'est vrai que pour revenir sur la question de la déconstruction, ça me parle assez fort. J'ai l'impression que c'est aussi une question centrale en fait dans l'écologie. Il faut déconstruire nos idées reçues par rapport à la nature, à l'utilisation des ressources, etc. pour fonctionner différemment. Et j'ai l'impression que c'est un même système en fait de domination de l'autre en règle générale qui crée ces deux problématiques. Et donc voilà, mais ouais.
Oui, tout à fait. En vrai, on retrouve quand même quelque chose de systémique à ce niveau-là. Et du coup, par exemple, au chef, est-ce que vous avez, vous aussi, des préoccupations écologiques certaines ? Est-ce que c'est un sujet dont vous avez déjà parlé ou
C'est pas spécialement une question que je pense qu'on va aborder. Peut-être qu'Aurélio...
Par pure curiosité. Hein.
Alors, c'est pas... Donc, les chefs, niveau écologie, etc., on n'en a pas parlé forcément, mais c'est quelque chose qui nous tient quand même à cœur dans le OA, donc dans le conseil d'administration actuellement. Et c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place dans les années à venir, comme on doit revoir tous nos statuts, etc. C'est quelque chose qu'on aimerait même mettre en avant.
Affaire à suivre, donc...
Mettre en lien avec Eclosio, du coup.
Oui, avec plaisir.
Exact. Oui, donc du coup, on se posait aussi un petit peu la question dans les réflexions qu'on a sur l'activisme, sur la remise en question de soi-même, sur la déconstruction d'un système. Des fois, on arrive à se remettre en question soi-même. Donc on part d'un principe de base, par exemple, je ne sais pas, vous partez du principe en disant « purée, c'est vrai, ça pollue vachement » et on commence à se remettre en question « qu'est-ce que je consomme ?» par exemple. Ou alors « ah tiens, les violences homophobes, c'est quand même vachement présent » et puis « ah, pourquoi est-ce que ça me touche à ce point-là » j'aimerais savoir un petit peu ce que vous pensez de ce côté un petit peu cyclique qu'il y a entre la réflexion sur un système dans lequel on est et puis un côté un peu plus individuel en fait.
Personnellement, je suis pas sûr de comprendre la question à 100%.
Je
sais pas si.
Je pense que ce que Lucky veut dire, c'est que pour avoir dans nos combats écologiques ou de communauté, c'est qu'il y a d'abord une réflexion sur soi-même, d'où le déconstruire encore une fois. Comment je consomme, comment sont mes habitudes, mes attitudes, et du coup voilà, c'est ça, c'est un peu votre point de vue à ce niveau-là.
Personnellement, je pense que ça passe par beaucoup d'informations. Je considère que c'est très important de s'informer sur des sujets et continuer à s'informer sur ces sujets, le plus possible, quoi. Parce que c'est justement comme ça qu'on arrive à retourner dans ce cycle-là. On observe d'abord extérieurement comme ça un système qui capote comme ça et. Et puis on se rend compte que notre action individuelle a des implications avec ça. Et puis on a aussi parfois des désillusions. Personnellement, j'en ai eu beaucoup par rapport à l'action individuelle, qui est en fait une pensée quand même vachement libérale de l'activisme. Et que c'est aussi quelque chose qui peut se déconstruire en fait dans l'activisme même. Comment on peut trouver et intégrer de nouveaux moyens de lutte qui t'enferment pas dans une sorte de carcan de la responsabilité individuelle. Tout ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Et pour moi, donc, l'information, c'est hyper important. Et aussi, personnellement, je lis pas mal, j'écoute beaucoup de podcasts. Multiplier les médias, multiplier les sources d'information aussi. Pour moi, ça passe par les médias, honnêtement. Voilà.
Oui, c'est ça, donc s'informer, se retrouver dans des lieux d'échange et en groupe pour ne pas se retrouver tout seul face à ces combats.
Euh, j'aimerais ajouter aussi que il n'y a pas que l'information, et puis la surinformation aussi peut être source d'anxiété. Par exemple, on a de plus en plus à faire, par exemple, de l'éco-anxiété par rapport aux crises climatiques et tout ça. Et donc, du coup, je trouve que on doit favoriser, oui, l'information, mais pas non plus la surinformation. Et surtout, dans les milieux où on se retrouve tous ensemble, favoriser plutôt une information positive et où chacun fait des petits changements. Et ça est valorisé par tout le monde et pas critiqué. Bah, par exemple, oui, je suis écolo, mais je mange des bananes. Bah, non, c'est pas écolo parce que voilà, les bananes, c'est importé. Et que c'est des petits changements qui vont venir, voilà, petit à petit avec la pratique, et qu'il faut voir tout changement comme quelque chose de positif. Et de valoriser la diversité dans les démarches, qu'elles soient sociales ou écologiques, parce que la diversité, c'est ce qui fait la résilience, et c'est important pour la transition après de favoriser ça.
J'ai un super effet de transition, une information positive qui ne va pas occasionner beaucoup de changements. C'est juste une petite pause musicale. On va écouter Suzanne avec SLT, et on revient avec tous juste après pour continuer cette discussion.
Radio Esperanza.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule. Hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant, de longtemps, trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent, si tu donnes pas le vrai. Bats-toi, fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau, 2 minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante, j'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. Façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant, de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi, fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, t'es vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûr que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je suis en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant, de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi, fille. Bats-toi, fille. Bats-toi, fille.
Et ça tombe bien parce qu'on reprend directement en plein cœur du débat avec Paolo qui avait l'air très hâtif de partager son point de vue.
Un cœur qui va être petit hein, maintenant. Ça, on va faire un dernier tour quoi,
ouais,
en fait. Hein.
Mais c'était juste pour rebondir ce que vous disiez, ça m'avait pas mal parlé. Donc quand tu parlais d'éco-anxiété et de groupe, je pense qu'aussi une des choses essentielles quand on a toutes ces remises en question et réflexions, c'est le groupe et la bienveillance dans le groupe, le fait de pouvoir être chacun à des stades différents, des choses différentes qu'on est prêt à faire ou qu'on a découvertes, apprises. Et je pense que ça, c'est une des choses essentielles pour réussir à se changer de l'intérieur. Je voulais rebondir là-dessus. C'est tout.
Merci beaucoup.
Et moi, je voulais juste revenir. Je trouvais que la formation, c'était hyper important. Mais avant la formation, je trouve que pour recevoir la formation, il faut être dans un état d'esprit où on est capable de la recevoir, de la traiter et de se remettre en question. Et c'est là que je trouve que nos combats se rejoignent, en fait, parce qu'en prônant la déconstruction, on se met dans un état d'esprit où on est capable d'accepter la formation. Et je crois que c'est vraiment là où on n'est pas capable de se battre sur tous les combats. Je pense que la communauté LGBTQ+, a un combat, personnellement on a un combat, et là où on se rejoint, c'est vraiment pousser les gens à se mettre dans cet état d'esprit où on est capable d'accepter la formation, de l'intégrer, et puis au final de changer nos comportements pour rester en accord avec la bienveillance dont tu faisais pas, dont tu parlais plus tôt, Paola, et au final de pouvoir rester unis dans cette déconstruction et dans l'acceptation des informations, et au final pouvoir avancer chacun à son rythme, quoi.
Ça, c'est un beau résumé, je pense, de ce qui s'est dit en général. Peut-être un petit rebond. Est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et aussi, je reviens avec le sujet de la surinformation. C'est important pour nous, effectivement, de ne pas trop en faire pour pas que ça desserve aussi les causes qu'on est en train de défendre. J'entends souvent dire, notamment, l'exemple qui passe, c'est que voilà, maintenant il y a un gay dans toutes les séries de Netflix. Est-ce que il en faut partout? Est-ce que c'est pas trop de sensibilisation? Et quand on arrive à ces réflexions-là, c'est que parfois il y a peut-être trop d'informations qui arrivent chez les gens, et du coup les gens sont moins disposés à les retenir. Comme on peut parler du climat, des marches pour le climat, si on les voit tous les jours à la télé, ça a peut-être moins d'impact que si on réfléchit à la manière de sensibiliser.